Allô, Henri? C'est Nicolas. T'as entendu 2000 ans d'histoire aujourd'hui? Ouais, sur Clémenceau. Et il me le faut à mon répertoire, celui-là aussi. Alors, tu te démerdes, tu relis tous ces discours, et tu me concoctes un beau discours plein de citations de Clémenceau. Une pointure, ce type. Tu sais ce qu'il a dit? On ne mange jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Alors ça m'a fait tilt dans la tête. Je me suis dit, faut contrôler les chiffres que nous donnent les préfets de région dans la chasse aux immigrés. Peut-être qu'ils les gonflent, les chiffres, et que ceux qu'ils nous donnent sont largement au-dessus de la réalité. Va falloir contrôler et sanctionner. Et puis t'as entendu, Henri? Clémenceau, il a été ministre de l'Intérieur, comme moi. Hein? Qu'est-ce que tu dis, là? Pour comprendre le bonhomme, faut remonter à Beauvau. Et ça te fait rire, ça? Bon, et puis, le tigre, ça me plaît bien. Je me souviens, dans Winnie l'ourson, c'était Tigrou, mon préféré. Qu'est-ce que tu dis, Henri? Le problème, c'est que je ressemble davantage à Calvin qu'à Hobbes. Fais gaffe, Henri. Si tu te paies ma gueule, je te vire, toi aussi. C'est incroyable, ce type. Calvin. Moi, je suis un tigre, moi.
Ouais, salut Daniel, c'est Farid, la chauffeur routier de Pont TV. Je viens d'écouter ton émission là sur la peur le 27 septembre. Eh bien, bien joué, parce que elle m'a bien fait peur. Allez, bonsoir à tout le monde et bonjour à tous qui galèrent. Salut.
Bon, je sais que c'est pas original, mais moi j'ai peur de Sarkozy. Parfois, en pleine nuit, à l'heure la plus silencieuse, je suis tout raide dans mon lit et j'ai peur que Sarkozy arrive. Je n'ose plus bouger. Je trouve mille raisons qui font de moi un anormal, qui n'aurait pas sa place dans la société. Mille et une raisons pour que la police de Sarkozy frappe à la porte en pleine nuit. Debout, monsieur, vous devez quitter le territoire de la France. Vous êtes improductif. Vous êtes un artiste peintre et ça ne sert plus à rien de nos jours. Vous ne consommez presque pas, à part des cigarettes et du whisky. Vous vous levez tôt, certes, mais en vérité, c'est parce que vous ne dormez pas beaucoup, car toute la nuit, vous avez peur de Sarkozy. Mais monsieur l'agent, je n'ai rien fait de mal. Certainement, mais vous n'avez rien fait de bien non plus. Mais si vous le voulez, je pourrais faire le portrait du président Sarkozy. Eh bien, nous parlerons de tout cela dans l'avion.
Bonjour, c'est Clément qui vous annonce la tenue d'un repère des AMG de Là-bas si j'y suis, le mardi 2 octobre à 18h30 au Café Gervaise, 4 bis, boulevard Jeanne Sfasi à Genève. Venez nombreux et nombreuses.
Bonjour, voilà. Toute la journée, j'ai entendu parler du Grenelle, de l'environnement. Ça me fait rire, mais ça me met en colère aussi. C'est n'importe quoi. Que M. Bourleau, avec sa clé USB autour du cou, pour faire de l'économie de papier. C'est une vitrine, leur Grenelle de l'environnement. C'est juste une vitrine. Ils veulent faire payer une taxe sur les ordures ménagères. Au lieu de réduire, non, on fabrique plus, mais on fait payer les gens. On parle pas des énergies renouvelables. Eh ben voilà. J'espère que les gens vont comprendre que c'est juste une vitrine et ne vont pas se laisser embarquer là-dedans. En attendant, moi je roule à 100% huile et j'aimerais bien savoir la taxe qu'ils vont me mettre là-dessus. Voilà, c'est Cathy. Au revoir.
Bonjour, c'est India du Vaucluse. Voilà, moi j'appelle pour la Birmanie. Je suis scandalisée. Là, je viens de regarder le journal de TF1 et les titres sur la Birmanie passent en 3 ou 4e position sur le journal. Donc c'est vraiment scandaleux que M. PPDA n'a pas jugé utile d'en faire l'ouverture. Voilà, il y a vraiment une échelle à géométrie variable selon les régions où vous vous trouverez, selon les intérêts des États-Unis, des pays occidentaux en général, voilà.
Et eh bien nous, on va en parler aujourd'hui de la Birmanie, on va parler de la Birmanie, on va parler de la responsabilité ou de l'implication de la firme Total, aussi en Birmanie, et d'un certain bureau de conseil qui s'appelait Beka. Beka Conseil, Beka comme Bernard Kouchner. Et oui, il y a quelques années, Beka avait fait un rapport sur la présence de Total et sur ce que faisait Total en Birmanie. C'est tout cela que nous allons évoquer aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. Si j'y suis, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux, Vous connaissez le numéro 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, Christian, du militant au réseau Éducation sans frontières. Voilà, je vous communique un petit message. La loi Hortefeux va être discutée au Sénat, prévue le 3 octobre. Des personnalités signataires de la pétition « Laissez-les grandir ici » pourraient venir déposer solennellement cette pétition aux parlementaires soutenue par un rassemblement au Sénat. À ce jour, nous comptabilisons, voire sur le site, le nombre de signatures de cette pétition, en ligne 47 449, sur papier 54 054, ce qui fait 101 503 signataires. Personnellement, en tant que militant, je demande à ce que les auditeurs de là-bas, si j'y suis, fassent un effort pour signer rapidement en ligne. Donc je rappelle www.educationsansfrontieres.org. Je vous remercie et j'espère que ce message va passer.
Bonjour, et bien voilà, c'était pour dire qu'aujourd'hui, cet après-midi, 28 septembre, au tribunal de Bobigny, il y a 4 gars qui sont en train de se faire juger pour entrave au travail et à la liberté d'expression d'autrui, enfin des trucs comme ça, pour être simplement allé sur le plateau de la Starac en octobre 2003, et puis voilà, ils se sont fait tabasser par les vigiles, et puis ils ont été arrêtés ensuite, mais voilà, ils étaient que 4 à se faire arrêter alors qu'on était 100 là-bas. Voilà, et donc cet après-midi, ils sont jugés. Il y a 34 autres personnes qui sont en comparution volontaire avec eux, un petit peu comme les faucheurs de GM. Et puis, on espère que on va s'en sortir pas trop mal. Donc, on essaiera de vous tenir au courant, vu que les infos là-dessus, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Voilà, merci, à bientôt.
Bonsoir messieurs, soyez les bienvenus, il y a de la place pour tout le monde ici. On peut les applaudir aussi. C'était pas prévu. Ce sont les intermittents du spectacle. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdemoiselles. Mettez-la du bon côté. Éteignez vos télés, enfin éteignez pas la nôtre quand même.
Voilà, dans l'édition télévision, après l'occupation du plateau de Star Academy, les intermittents du spectacle se sont allés manifester devant le siège de TF1 pour que la chaîne retire sa plainte. Patrick Lelay, Étienne Moujotte, vous êtes les patrons de TF1, les avez pas reçus. Non, qui crève ? Nous ont fait perdre du fric ces cons-là, et ça c'est inadmissible artistiquement.
Mais non Patrick, disons que nous ne céderons pas à la violence.
C'est pas des électriciens et des cracheurs de feu qui vont faire venir la loi chez moi, hein ? Envoie-leur des flics et des caméras, que ça dégage la rue et qu'on puisse avoir des images pour le 20h. Vous méprisez les intermittents ? Non, il y en a des utiles. Ceux qui bossent pour nous et qui ferment leur gueule.
Soyez les bienvenus sur TF1. Voilà, la Star Academy reprend, nous sommes en direct et comme vous l'avez constaté, nous avons été forcés d'interrompre notre programme suite à l'invasion violente de notre plateau par des intermittents du spectacle. Nous vous présentons nos excuses et le spectacle reprend. Tout est entré dans l'ordre.
Nous sommes en 2003 et vous croyez toujours ce qu'on vous dit à la télévision. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est Patrick Lelay et Étienne Moujotte, respectivement numéro 1 et numéro 2 de TF1, qui nous accompagneront tout au long de ce journal, avec une reviendront sur l'intervention des intermittents dans Star Academy et leur supposée violence qui était plutôt le fait des vigiles de TF1. C'est pas vrai? C'est faux?
C'est pas passé comme ça.
Si, si, il y a une cassette qui le prouve. On voit des vigiles frapper des intermittents au visage. Ah bon?
Tiens, on n'avait pas piqué toutes les cassettes?
Nos vigiles les ont bien savatés, ces intellos de merde. C'est scandaleux. Vous avez menti, manipulé la presse et présenté les faits de façon tronquée, là. Nous n'avons fait que notre travail?
Oui, non, Patrick, non. Les faits sont les faits. Nous avons été agressés, quand même.
C'est vrai, oui. Entrer sur un plateau de télévision sans y être invité, c'est violent. Mais quand même, les vigiles ont frappé des femmes. Et alors? Sur TF1, on fait pas de sexisme? Homme ou femme, on vise les couilles?
Non, Patrick, non.
Mais il faut nous comprendre aussi. C'est-à-dire? Eh bien, des gens, ces intermittents-là, qui entrent sur un plateau de TF1 pour parler de culture, franchement, on s'est sentis agressés. Ah oui, oui.
On n'est pas habitués, faut nous pardonner.
C'était violent pour nous, ces gens qui voulaient s'adresser aux Français, sans chanter, sans montrer leur cul et sans avoir de gros seins. On a paniqué.
Voilà, c'est ça. Dès qu'on a entendu le mot culture, on a sorti nos matraques.
La culture, il y a des ghettos pour ça.
Des chaînes, Patrick, des chaînes.
Mais oui, qu'on leur mette des chaînes et qu'on les envoie en tôle. À TF1, les seuls qui s'occupent de culture, c'est les vigiles. Et encore, c'est la culture physique. Voilà, ça c'est bien. La culture ne passera pas.
Salut, c'est Olivier. Je suis réalisateur de documentaire et je suis un des quatre qui va passer en procès là pour avoir pris la parole sur le plateau de la Star Academy il y a 4 ans. On va rentrer dans la salle d'audience là dans 5 minutes. Voilà, je vous laisse un petit message pour vous remercier de tous les encouragements qu'on a reçus. Et on vous tiendra au courant. Normalement, l'audience est partie pour 4 heures. On est accusé donc de violence, voies de fait, entrave à la liberté du travail et de l'expression. Sachant que parmi les 4, on est 3 à s'être fait bien casser la gueule par les vigiles de la Starac. Et que c'est parce qu'on leur a dit qu'on voulait porter plainte contre eux qu'on a ensuite été désignés comme les auteurs des violences. Bon, bah écoutez, voilà, c'était juste un petit message de avant. Et j'espère qu'on aura un message positif à vous donner dans 4 heures. Ciao.
C'est pour annoncer le prochain repère à Mornant, dans le Rhône. Donc c'est chez Alain, sur la place des Platanes. C'est lundi 1er octobre à 20h. On vous attend nombreux et on a mis à l'ordre du jour, si on peut appeler ça comme ça, travaillez moins pour cultiver plus. Donc quoi débattre, je crois. À bientôt.
Moi aussi j'ai peur du noir. Cette nuit, je me suis réveillé en sursaut. Je marchais dans une grande ville, Paris peut-être. Et les nuages noirs s'amoncelaient au-dessus de ma tête. Devant moi, sur le boulevard, une foule immense avançait, bruyante, impressionnante, menaçante. De toutes parts, on entendait des slogans qui tous disaient la même chose, qui pestaient contre une sorte de Robin des Bois inversé, celui qui prend aux pauvres pour donner aux riches. Et en face de cette foule, pour protéger les gens des beaux quartiers, terrorisés, qui osaient à peine risquer un œil derrière leur bouclier fiscal, presque plus de CRS. On n'avait pas remplacé par souci d'économie ceux qui avaient pris leur retraite. Pire encore, les CRS retraités s'étaient mêlés au cortège et prenaient leurs pieds à manifester. Le président s'était retranché précipitamment dans sa résidence de Versailles, la Lanterne, avec le remarquable petit Louis et la remarquable Cécilia. Et pendant ce temps-là, le prix du pain ne cessait d'augmenter. Pourvu qu'ils ne commettent pas l'erreur de passer par Varennes en fuyant la France. Tout ça va mal finir, Daniel, je le sens. C'était Jean-Claude de Seine-et-Marne.
Tout m'est indifférent, même la justice vraie, qui ne fait peur qu'aux méchants, la seule qu'on ait encore. Tous la subiront, même les plus forts. Cette justice, je l'aime bien. On l'appelle la mort. François du Jura. Salut Daniel et salut à tous.
Quand je suis montée avec Jérôme et ses copains dans le train fondant, mais qu'ils s'amusaient à me faire peur, j'ai pas eu peur. Quand je suis montée derrière Dédé sur son énorme cylindre, quand j'ai vu 300 au compteur, j'ai pas eu peur. Monter avec toi mon cœur dans ton petit train-train du bonheur qui roule à zéro à l'heure, ça me fait peur. Quand je suis montée avec mon look en banlieue visiter son souk face au dealer et au rappeur, j'ai pas eu peur. Quand je suis allée avec Roger à plus de 50 mètres en plongée face à des requins infamés, j'ai pas eu peur.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Renaud Lambert, BK, écran total.
Flight number 2, arriving from New York.
Justement, les États-Unis et l'Union Européenne ont demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies d'envisager des sanctions contre la Birmanie, tandis que le chef de l'État rencontrait cet après-midi à l'Élysée le Premier ministre du gouvernement en exil. Écoutez-le.
La France appelle l'ensemble de ses sociétés privée, Total par exemple, à faire preuve de la plus grande retenue s'agissant des investissements en Birmanie en demandant qu'il n'y en ait pas de nouveaux. La situation est extrêmement préoccupante et nous ne pouvons pas accepter des comportements aussi contraires aux droits de l'homme et aux droits de l'opposition.
Démocratie, yashiye!
Doye!
Démocratie, yashiye!
Doye! Doye!
Libérez, on s'assoutit!
Libérez, on s'assoutit!
Libérez tous les prisonniers politiques!
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 Démocratie, yashiye!
Doye! Doye!
On est dans le parc Monceau à Paris, à deux pas de l'ambassade de Birmanie. Je suis allée il y a 2 ans en vacances. Et là-bas, j'ai découvert un peuple opprimé, complètement parano, qui a du mal à parler et à expliquer vraiment ce qu'ils vivent. Donc sous une façade où tout a l'air d'aller bien malgré la pauvreté, derrière il y a des souffrances terribles depuis 88, donc depuis que les étudiants se sont soulevés là-bas. Et j'ai rencontré des gens qui ont participé au mouvement au soulèvement en 88, qui étaient aux côtés d'Aung San Suu Kyi.
Et quand Aung San Suu Kyi, c'est
L'opposante birmane, c'est une femme simplement magnifique, il faut absolument l'aider, il faut qu'elle sorte de prison.
Nous, de toute façon, la France a un bon impact sur la Birmanie, puisque un des fleurons d'industrie française, Total, est présent là-bas.
Oui.
Et notre ministre des Affaires étrangères, qui n'était pas encore ministre des Affaires étrangères, a fait un rapport il n'y a pas longtemps, qui expliquait qu'il n'y avait aucun problème.
Tout à fait. Quand on parle avec les Birmans disent qu'en fait Total a simplement mis en place, a utilisé l'esclavagisme qui est clair et net là-bas, donc notamment les gamins.
Attendez, vous me dites que Total ferait de l'esclavagisme en Birmanie, d'une part, et d'autre part que Bernard Kouchner, qui est ministre des Affaires étrangères en France aujourd'hui, aurait menti.
Total n'est pas totalement net dans sa façon d'avoir exploité la main-d'œuvre locale, et notre ministre actuel des Affaires étrangères n'est pas totalement net non plus dans son analyse qu'il a fait de la situation à l'époque.
Voilà, il faut la manifestation hier pour la Birmanie. Vous suivez ce qui se passe dans ce lointain pays. Et là, on vient à nouveau de parler du rôle de Total dans ce pays. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé et le rôle qu'a pu jouer Bernard Kouchner ces dernières années dans cette histoire. Il faut d'abord rappeler que la Birmanie est un des pays les plus pauvres du monde, mais avec des richesses naturelles considérables. Pas seulement des hydrocarbures, on pense à des hydrocarbures, c'est vrai, il y a du gaz et du pétrole, mais il y a aussi des ressources minières importantes, zinc, cuivre, pierres précieuses, etc., sans parler du bois et des forêts. Sauf que toutes ces richesses sont confisquées par la junte qui est au pouvoir depuis 45 ans, et il n'y a aucune redistribution, aucune retombée pour les populations. La dictature vend les ressources et garde l'argent. C'est classique et c'est comme ça que ça fonctionne. Et par conséquent, les investisseurs, sans caricaturer, soutiennent la dictature. Et Madame Aung San Suu Kyi, dont on entendait les supporters à l'instant dans cette manifestation, prix Nobel de la paix 1991, a dénoncé Total au journal Le Monde le 20 juillet 1996. Elle déclarait « La firme Total est devenue le plus fort soutien du système militaire birman. Ce n'est pas le moment d'investir ici. » Fin de citation, c'était en 1996. Je répète, la firme Total est devenue le plus fort soutien du système militaire birman. Et en effet, Total renforce et enrichit, a renforcé et a enrichi la dictature, mais pas le pays ni les habitants. C'est un soutien économique et politique à la fois. Et cela depuis des années, toute une série d'ONG, de ligues de défense des droits de l'homme en France, mais pas seulement en France, à travers le monde, le disent et le répètent. Il faut préciser que les dépenses militaires en Birmanie représente 40% des dépenses, parfois jusqu'à 50% certaines années, alors que selon l'UNICEF, 36% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'une insuffisance pondérale. Et selon le PNUD, le Programme National des Nations Unies sur le Développement, 10% des enfants meurent avant l'âge de 5 ans. Alors tout cela amène à la polémique sur le boycott. Oui ou non, faut-il boycotter la Birmanie ? Total doit-il partir ? Quels seraient les effets du boycott sur les populations ? Si on écoute quelqu'un comme Olivier de Scutter de la Fédération internationale des droits de l'homme, Scutter dit ceci, les revenus de 75% de la population birmane proviennent de l'agriculture. C'est des tout petits paysans. Et l'État, prédateur, il le répète, dépense 45 à 50% de son budget dans les dépenses militaires contre moins de 3% réservés à la santé et à l'éducation. L'immense majorité des citoyens ordinaires de Birmanie n'est pas affectée par les rares sanctions qui ont été imposées ce jour. Il y en a quand même eu. Elle l'est en revanche quand Total, pour la construction du gazoduc, a entraîné le déplacement de villages et a aggravé le recours au travail forcé et les violations des droits de l'homme. Alors, on va parler de ce fameux travail forcé qui s'apparente tout à fait à ce que disait cette manifestante hier à de l'esclavage, tout simplement. Mais il faut remonter un petit peu en arrière. Il faut se souvenir comment, en 1990, la junte militaire qui tient ce pays a pris quand même une sacrée claque quand le parti de Aung San Suu Kyi, la LND, la Ligue Nationale pour la Démocratie, a remporté les élections avec 85% des voix. Évidemment, les militaires n'ont tenu aucun compte de ces résultats, mais enfin, ils se sont trouvés tout de même un peu fragilisés et un petit peu affaiblis, et ils ont décidé d'ouvrir leur pays aux capitaux étrangers, et c'est là que Total est arrivé. D'autres compagnies, d'autres grandes sociétés ont été attirées, mais enfin ont hésité quand même à entrer en relation avec un régime comme celui-là. Ça n'a pas été le cas de Total, un pays quand même où, au point de vue droit de l'homme, que ce soit arrestation, torture, viol, travail forcé encore une fois, tout cela est dénoncé depuis des années par les Nations Unies. Pour ce qui concerne le travail forcé par l'OIT, par l'Organisation internationale du travail, et malgré tout, c'est dans ces conditions que Total, en 1992, va signer des accords avec la dictature pour opérer en Birmanie, et notamment pour la construction d'un gazoduc vers la Thaïlande. Et là, selon encore une fois, les Ligues des droits de l'homme, selon Amnesty, selon toute une série de syndicats et d'associations, Total aurait eu recours au travail forcé directement ou indirectement. Par exemple, l'armée qui assure la sécurité autour de la construction du gazoduc et aujourd'hui du gazoduc a recours au travail forcé. Et c'est ce qu'a dit hier le ministre en exil sur une radio concurrente. Il a dit ceci, Total peut dire qu'il n'utilise pas de main-d'œuvre forcée, mais l'armée le fait puisqu'elle protège l'entreprise en faisant venir cette main-d'œuvre pour garder le gazoduc. Alors, en août 2002, des travailleurs birmans vont porter plainte contre Total. Ils vont porter plainte contre Total en France même, puisque Total a son siège en France. Ils sont 6 à porter plainte et l'affaire qui fera pas trop de bruit, pas trop de bruit, se terminera en queue de poisson juridique. Mais Total, qui a nié le recours au travail forcé, a tout de même payé 5 millions de dollars de dommages et intérêts aux travailleurs. C'est une contradiction, à la fois on indemnise et à la fois on nie d'être coupable de ce recours à cette main-d'œuvre. Et au cours du procès, les avocats de Total vont utiliser un rapport très favorable au rôle de Total en Birmanie. Et ce rapport, il est signé BK Conseil. BK comme, eh oui, Bernard Kouchner. Eh oui, le secours cathodique, le fondateur de Médecins Sans Frontières, le héros du droit d'ingérence humanitaire, est l'auteur de ce rapport, utilisé donc contre ces travailleurs victimes de crimes et séquestrations, ce qui est la traduction juridique de travail forcé. Alors, BK, c'est-à-dire Bernard Kouchner, savait-il que le rapport qui lui avait été commandé par les avocats de Total serait utilisé dans le procès contre les travailleurs birmans, enfin le procès des travailleurs birmans? On ne peut pas le savoir, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment et pourquoi Bernard Kouchner a produit ce rapport. Voilà le point de vue de Patrick Baudouin, qui est président d'honneur de la FIDH, c'est-à-dire la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme.
À l'origine, Total a accepté de travailler avec la junte birmane pour la construction d'un gazoduc et pour son exploitation ensuite. Moyennant bien évidemment d'une part des travaux exécutés sur place, c'est un chantier qui était extrêmement important, et d'autre part des royalties qui étaient reversées à la junte birmane. Ça, il faut remonter, ce sont les années 95-96. Et à cette époque, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme avait enquêté sur cette question et avait considéré que l'attitude de Total n'était pas admissible. Pas admissible pour deux raisons principalement. D'abord parce que les ressources provenant donc de ce gisement via les royalties versées à la junte birmane étaient selon nous de nature à profiter exclusivement à la junte et non pas à la population birmane. Autrement dit, c'était la crainte qui s'est avérée largement justifiée de voir les généraux birmans s'en mettre plein les poches sans que le reste de la population en profite. Et le second reproche qui était fait à Total, c'était de dire vous allez travailler sur place, vous allez travailler avec des birmans, des travailleurs birmans, dans une région où il y a une hostilité de la population au gazoduc. Donc la junte birmane va vous fournir en quelque sorte des travailleurs birmans, mais qui vont travailler de manière forcée, de manière obligée. Autrement dit, c'est un recours que vous allez faire, si ce n'est de manière directe, de manière indirecte, au travail forcé. Bien. Total s'est immédiatement défendu en disant non, pas du tout. D'abord, un argument un peu cynique qui est souvent opposé dans ce cas de figure, qui consiste à dire si c'est pas nous, ça sera d'autres. Et puis plus sérieusement, nous disant non, on va veiller à tout cela, on va veiller à ne pas utiliser le travail forcé, et nous allons également créer des infrastructures dans la région du chantier qui profiteront à la population birmane, et en particulier des dispensaires, des hôpitaux, des écoles, enfin des aides apportées. Bon, nous avons toujours combattu cela en disant ça c'est la bonne conscience que vous vous donnez, mais ce sont des miettes et le profit ira ailleurs. Bien. Toute cette campagne s'est poursuivie, ou toutes ces critiques plus exactement contre Total se sont poursuivies au fil des temps et ont été amplifiées par le fait que certains travailleurs du chantier qui s'étaient réfugiés en Thaïlande, donc des Birmans qui avaient travaillé sur le chantier Total, réfugiés en Thaïlande, ont décrit les conditions dans lesquelles ils travaillaient et les ont dénoncées. Il y a même eu une plainte qui a été déposée par quelques travailleurs birmans en France, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, puisque Total a son siège à la Défense. Bon, instruction qui n'a pas abouti, dans la mesure où Total a préféré transiger et verser des indemnités aux plaignants, ce qui était quand même quelque part, malgré les précautions prises, une sorte de reconnaissance de responsabilité. Mais j'en viens au rapport de Bernard Kouchner. Face à toutes ces critiques latentes revenant périodiquement, Total a fait appel, à ce moment-là Bernard Kouchner n'avait pas de responsabilité officielle, donc Total a eu recours à Bernard Kouchner et lui a demandé un rapport en lui disant, voilà, vous allez là-bas et puis nous sommes l'objet de critiques très vives. Dites ce que vous voyez. On dit que nous pratiquons le travail forcé. Nous le contestons. Bien. Et Bernard Kouchner, effectivement, est allé quand même assez largement guidé dans sa visite par les gens de Total, ce qui déjà limitait sa liberté d'action. Il n'est resté au demeurant de mémoire que 3-4 jours au Total, sur place, ce qui est quand même assez peu. Donc il est revenu, il a fait ce rapport qui dédouanait, alors avec quelques nuances, hein, faut pas non plus caricaturer les conclusions du rapport de Bernard Kouchner. Quelques nuances, quelques interrogations, mais pour l'essentiel, il disait, bon, ben, Total est là-bas sur place, Total se comporte correctement, moi, j'ai pas observé de recours au travail forcé, et j'ai pu voir sur place bon, qu'il y avait au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, des aides qui étaient apportées par Total, effectivement, à la population locale. Donc Total, évidemment, a utilisé très très largement ses conclusions. Et nous avons, je dis nous, mais la Fédération internationale des délits des droits de l'homme, d'autres organisations comme Amnesty, hein, qui est très, très présente aussi sur ce dossier, ont considéré que ce rapport manquait de sérieux, qu'il était d'un certain parti pris et qu'il revenait à dédouaner Total dans des conditions qui n'étaient pas suffisamment approfondies et pas suffisamment objectives.
Il faut peut-être rappeler qu'il a été rémunéré par Total.
Et bien sûr. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un rapport qui a été donc commandité par Total. C'est Total qui a demandé à Bernard Kouchner ce rapport et qui, par voie de conséquence, l'a rémunéré. Alors, pour une somme, je crois qu'il était de l'ordre, d'après ce qui avait été dit, de 15 000 euros, me semble-t-il, hein, de mémoire, hein, 15 000 ou 20 000 euros. Mais enfin, je dirais que peu importe le montant, on peut le considérer élevé ou pas, ça c'est, Bernard Kouchner a été payé par Total, ce qui, là aussi, limite quand même nécessairement la marge de manœuvre et fait perdre d'emblée beaucoup de crédibilité aux conclusions. Alors, moi, il me paraît évident que le pouvoir politique français s'est très très largement compromis avec le pouvoir économique Total, qui est une société française, et que les autorités françaises, tout en ayant parfaitement conscience et connaissance des agissements très discutables de Total en Birmanie, n'ont pas voulu entraver l'action de Total et l'ont même facilité. Est arrivé l'épisode Kouchner. Je ne pense pas que cet épisode, je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'il se situe dans un contexte vraiment politique. Je pense que c'est une époque où Bernard Kouchner était vraiment à la recherche d'une activité. Bon, c'est quelqu'un qui supporte mal l'inactivité. Total, dont les responsables de la communication ne manquent pas d'habileté, s'est dit, voilà une excellente opportunité à saisir. Total a contacté Kouchner, évidemment, en raison de tout l'impact médiatique qui peut s'attacher à sa personne. Et moi, je pense qu'il s'est fait piéger, mais il s'est fait piéger par Total. Et je ne pense pas qu'il l'ait fait dans une optique de collusion entre le politique et l'économique. Il a été, à mon sens, piégé, je pense. Pour la suite, les choses sont maintenant évidemment assez paradoxales, puisque ce même Bernard Kouchner qui dédouanait Total il y a quelques années se retrouve ministre des Affaires étrangères à un moment où le pouvoir birman mène une répression ou est sur le point de mener, hélas, une répression féroce face aux manifestations de la rue. Et là, le même Bernard Kouchner adopte une attitude, fort heureusement d'ailleurs, qui paraît tout de même sensiblement différente, puisque je ne pense pas qu'il désavoue les propos du président de la République demandant le gel des investissements, y compris ceux de Total.
J'ai habité ici, rue Alfred de Vigny.
Ah, d'accord, ouais.
Voyez-vous.
Vous vous appelez comment, madame?
Yana, sans Yana.
Et vous êtes birmane?
Je suis birmane, ouais.
Ça fait combien de temps que vous vivez en France?
Je suis là à peu près 5 ans. Depuis 2002 septembre, je suis en France pour étudier. Voilà.
Et là, vous êtes en train d'accrocher des banderoles indiquant « Abat la dictature ». C'est une dictature, la Birmanie, en ce moment?
Tout à fait, c'est une dictature. C'est pure dictature. Voilà, il tue les gens et il nous torture dessous. Et s'il a envie d'arrêter, il arrête sans raison.
Mais nous, en France, ce qu'on connaît surtout de la Birmanie, c'est la présence d'une grande entreprise française qui s'appelle Total.
Ouais. Moi, j'ai l'impression que Total, il travaille avec le gouvernement. Justement, c'est pour ça qu'il est là.
Avec le gouvernement ou avec l'agence militaire?
Avec l'agence militaire,
avec le dictateur.
Oui, voilà. Justement, il est là depuis longtemps. Et puis, depuis longtemps, les investissements des États-Unis, tout ça, ils ont déjà reparti depuis longtemps. Il n'y a que Total qui est resté là-bas.
Les autres entreprises américaines sont parties, il reste que Total.
Depuis longtemps, voilà. Il ne reste que Total.
Mais pourtant, il y a Bernard Kouchner, qui est maintenant ministre des Affaires étrangères, a fait un rapport sur la présence de Total en Birmanie, dans lequel il dit qu'il n'y a aucun problème, que Total a raison d'être présent. Vous, ce n'est pas votre point de vue?
Ben, mon point de vue, que voilà, ben, il faut Total, il repart d'ici.
Voilà, manif devant l'ambassade de Birmanie hier. Et donc, cette analyse de Patrick Baudouin de la FIDH sur cette histoire. Lors de la publication du rapport Bernard Kouchner, BK, Conseil, la presse avait manifesté un certain étonnement à l'époque, le Canard Enchaîné, RFI, mais aussi le Nouvel Observateur, Libération, etc. Titrait « Auteur d'un rapport payé par Total, l'ancien ministre blanchit le géant pétrolier, Kouchner fait écran Total sur le travail forcé en Birmanie, etc. etc. » Aujourd'hui, on parle beaucoup moins, enfin, la question n'est pas là, et on n'est pas là pour la polémique.
Madame Royal, Bernard Kouchner s'est un peu trompé là quand même, non?
Pardon?
Bernard Kouchner s'est un peu trompé quand même.
Moi je viens pas ici pour polémiquer. Je pense que quand on est mobilisé sur des causes qui appellent une mobilisation, je crois que ça concerne le maintien de la paix dans le monde. Vous savez, le combat contre les dictatures et pour les libertés publiques, c'est une contribution à la paix dans le monde. Voilà.
C'est notre ministre des Affaires étrangères quand même.
Je ne suis pas là pour polémiquer.
Voilà.
Je pense que c'est pas intéressant et puis ça ne rend pas service à la cause. Mais je crois que quand on est mobilisé sur des causes comme celle-ci, il faut être présent. Il faut être présent parce que c'est un signal, c'est un symbole, c'est une façon de combattre. Et je crois que la lutte contre les dictatures, contre les juntes militaires au pouvoir, contre l'écrasement des libertés publiques, contre les intelligences, sont une menace pour la paix dans le monde. Donc c'est un combat universel.
Bon ben voilà le point de vue de Madame Royal. Le point de vue de Jean-Pierre Dubois, de la Ligue des droits de l'homme. On va voir que c'est une analyse proche de celle de Patrick Baudouin, avec quelques nuances.
Jean-Pierre Dubois, président de la Ligue des droits de l'homme. Les dernières infos que j'ai, c'est que de nouveau, ils ont tiré sur la foule et qu'il va probablement y avoir des centaines de morts dans les heures qui viennent. Donc il y a une urgence absolue à dire ça suffit. Il y a malheureusement 40 ans que ce régime est un des pires de la planète. Il y a 20 ans que ce régime a fait tirer avec des automitrailleuses sur une foule pacifique. Je connais peu de dictatures qui osent faire ça à ce degré de violence. Et il y a des années que une grande entreprise française, la plus grande entreprise française, Total, fait des affaires juteuses en Birmanie, a bénéficié de la construction d'un gazoduc dans lequel ont été employés des travailleurs forcés. On peut dire que ce gazoduc a été fait avec du sang. Il y a 4 ans, nous avions lancé une campagne que nous appelions « Stopper le totalitarisme en Birmanie ». Et bien entendu, les lettres Total étaient en rouge sur totalitarisme. Malheureusement, à l'époque, M. Kouchner, qui n'était pas encore ministre des Affaires étrangères, avait fait un rapport à la demande de Total pour expliquer que Total était blanc comme neige. Ça ne nous avait pas vraiment convaincus, ça nous avait plutôt attristés. Je constate malheureusement que, même par rapport au président de la République actuelle, M. Kouchner est en retrait sur le dossier birman. Donc je suis un peu inquiet sur la capacité de la France à s'engager face à ce qui est quand même une situation dramatique et insupportable.
Oui, on a du mal à comprendre comment une entreprise française pourrait s'engager dans un tel régime. C'est pour ça que le rapport de Kouchner nous avait vraiment rassurés, quoi.
Oui, ça, il était extrêmement rassurant, ce rapport. Moi, quand j'entends M. Sarkozy dire qu'il faut que Total arrête et ne fasse plus de nouveaux investissements en Birmanie, je pense que ça a dû beaucoup faire rire les généraux birmans. Parce que vu le niveau d'implication de Total en Birmanie, ils n'ont pas besoin d'en faire beaucoup de nouveaux. C'est une présence extrêmement forte et qui remonte à plusieurs années, même à plusieurs décennies. Donc il y a une complicité objective, certes, mais insupportable.
Mais alors, est-ce que si Total partait, est-ce que ça ne serait pas livrer le pays à des entreprises peut-être encore plus voraces dans ce cas-là? Est-ce que finalement Total n'est pas un moindre mal?
Bien sûr, c'est l'excuse de tous les soutiens dictateurs. Si nous ne le faisons pas, les autres le feront et ce sera pire. Moi, je pense que, sérieusement, la question est de savoir comment on peut faire pression sur ce régime. C'est un régime autoritaire. Total est là, comme d'autres entreprises. Hein. Ce n'est pas la seule. Il ne faut pas non plus exonérer d'autres entreprises occidentales qui sont importantes aussi. À un moment donné, il faut que les gouvernements occidentaux, que les gens qui peuvent faire pression sur ces entreprises, construisent un rapport de force. Les généraux birmans sont comme tous les dictateurs, ils ne connaissent que les rapports de force. Je pense que c'est aussi notre responsabilité de lancer des campagnes sur la responsabilité de ces entreprises. Je pense que Total dit vous ne viendrez plus chez nous même par hasard. Je pense qu'il faut faire savoir que Total n'est pas allé en Birmanie par hasard non plus et qu'il faut en tirer des conséquences. C'est seulement cette pression-là qui sera efficace.
Si Kouchner s'est trompé sur son rapport, est-ce que vous pensez qu'il doit rendre les 25 000 euros qu'il avait été payé pour le rédiger ?
Je ne suis pas juge de cette question. Je pense simplement que la simple idée de faire un rapport dans des conditions non impartiales me paraît extrêmement choquante.
Qu'est-ce que vous voulez dire par non impartial ?
Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse enquêter sur des violations des droits à la demande et aux frais de l'organisation sur laquelle on enquête. Je n'imagine pas une seule seconde que ce soit possible.
C'est-à-dire que c'est Total qui a payé Kouchner pour lui demander de certifier qu'elle ne violait pas les droits des Birmans.
À ma connaissance, Total a pris en charge ce rapport. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Mais ça, c'est, à la limite, c'est presque un peu anecdotique. Simplement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, M. Kouchner est ministre des Affaires étrangères et je ne voudrais pas que la position de la France soit uniquement représentée par une espèce de proximité trop grande entre les institutions de la République et la plus grande entreprise française.
Parce qu'on sait que par ailleurs, le président lui-même entretient ce genre de proximité avec d'autres grands entrepreneurs. On sait qu'il est l'un des meilleurs amis de Lagardère, Bernard Arnault.
Oui, la Ligue des droits de l'homme est préoccupée par le copinage entre les plus grands chefs d'entreprise français et le sommet de l'État.
Alors, le point de vue maintenant de William Bourdon. William Bourdon est avocat et il a été à l'origine de la plainte déposée en 2002 par les travailleurs birmans dont nous parlions tout à l'heure. Cette affaire s'étant soldée par une indemnisation payée aux travailleurs par Total. Là, tout ce qui court à travers ces reportages, enfin, à travers ces questions et qui hantent évidemment, et qui est le ressort du travail des ligues des droits de l'homme, de toutes ces ONG, ces syndicats, Amnesty International, etc., c'est la morale et le profit. Quoi. Au fond, on reste sur cette lutte entre l'éthique et le capitalisme. Est-ce qu'il est possible d'humaniser et de faire de l'éthique quand on est dans une entreprise, quand on est à la tête d'une entreprise, quand on dit est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Question. Moi, j'ai ma réponse, mais à chacun de se faire son avis là-dessus. Voici celui de William Bourdon.
Alors, c'est vrai que les temps ont changé et on ne s'en rend pas compte, mais les choses ont été assez vite ces dernières années. C'est-à-dire que des grands opérateurs du marché, maintenant, à l'occasion de leur assemblée générale, par le truchement aussi parfois de publicité très ciblée, veulent dire à l'humanité, veulent dire à leurs actionnaires, veulent dire à leurs consommateurs, veulent dire à leurs conseillers éthiques, veulent dire à leurs syndicats qu'il faut leur faire confiance. C'est eux et eux seuls qui savent ce qu'il faut faire pour humaniser la mondialisation. C'est eux qui savent mieux que quiconque comment faire pour réconcilier le marché avec les citoyens. Alors, le paradoxe, il est qu'il y a évidemment ici ou là des hiatus, un peu schizophréniques parfois, entre cette rhétorique éthique, environnementale, et puis on le voit également à l'occasion de Grenelle, et puis ce qui se passe à 10 000 km.
Là, vous faites référence au Grenelle de l'environnement, c'est ça ?
Voilà, au Grenelle de l'environnement, et ce qui se passe à 10 000 km, en Afrique ou ailleurs, où des filiales, parfois ont des comportements qui sont inversement proportionnels avec ces belles gesticulations compassionnelles que nous proposent ici ou là les plus grands acteurs du CAC 40. Alors, ça n'est pas possible. À terme, un tel hiatus, il n'est pas réduit, va ruiner toute la crédibilité des agents du marché. Ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Ce n'est pas leur intérêt à long terme. Puisqu'ils font de leur image éthique un élément fort maintenant, d'une certaine façon, de leur productivité. Donc ça veut dire que les entreprises, pour ne pas se payer de mots, et pour ne pas se moquer aussi du monde, doivent montrer qu'elles utilisent leur sphère d'influence dans les pays concernés pour peser sur les événements quand ces événements coïncident avec des très graves menaces sur l'intégrité physique de populations tout entières. Alors, c'est pas simple, les marges de manœuvre sont étroites. Parfois, à juste titre, on peut opposer la nécessité de la discrétion, mais la discrétion est aussi parfois l'habillage et l'alibi de la lâcheté et de l'impuissance. Donc, ces sphères d'influence, ça doit être des effets de levier pour peser et pour montrer que l'on pèse. Parce que si on n'utilise pas ces sphères d'influence, quand on est un acteur économique essentiel, quand on met sous perfusion un régime du fait de la manne qu'on apporte en raison des investissements faits sur place, ça veut dire qu'on se moque du monde. Ça veut dire que les consommateurs, les actionnaires sont cyniquement des véritables dindons de la farce. Il y a toute cette rhétorique humaniste de plus en plus sophistiquée qui déferle sur nous. Eh bien, tout cela va ressembler à une propagande et à une forme de manipulation si simultanément, dans le monde entier, partout où on a les intérêts, eh bien, on ne démontre pas qu'on est aussi protecteur de l'intérêt général public et au premier chef quand il y a des risques de massacre.
זה דורא, מסם שאו, קטרי בלבל, גאג'ו, הילדם, בוטמא, ארסלם, ג'יטוטי הקנה, גאג'ו, בשבב מוזיקה, היי ביצ'ינב, צ'יריקליה, Chai pelav sasso a vela terava me sembra barno brala Chai pelav sasso a vela terava me sembra barno brala Jav saru tu ve balva spidel man jav kai kava aitem roma naiman Sim saru pai mashkara lena yaka na kel kai konik ci ashavel Gajol ci glenza dav duma A vigila bav pel Roma, Cina no sa ste maladuvas, Gaggio druga riateavas, Cina no sa ste maladuvas, Gaggio druga riateavas. Spidel man jav kai kamav, aitem roma naiman Sim saro pae mashkara, lena yaka na kel kai konichi ashave Gajo, chiri klenza dav duma A vigila bav pel droma Shina do saste maladuvas Gaggio drugaria te avas, oi Cina dosa ste maladuvas, Gaggio drugaria te avas. senza vorrebbe l'umia gitano gaggio ma non sento male calo vai in barlo sai che fialo che senza vorrebbe l'umia calo vai in barlo sai che fialo.
Tavez Bartalo, Bratch et San Severino. Tavez Bartalo, Bratch et San Severino. Je le répète parce que vous allez être très nombreux à demander le titre de ce morceau magnifique. Merci à tous, merci à Patrick Baudouin, Jean-Pierre Dubois, Marie-Agnès Combesque et William Bourdon. Les reportages étaient de Renaud Lambert. Par ailleurs, nous vous signalons dimanche 30 septembre un concert gratuit contre les expulsions de sans-papiers avec Loïc Lantoine, Mon Côté Punk, le ministère des Affaires Populaires et bien d'autres. Rendez-vous place de la République à Lille à partir de 15h. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures, ou bien sur le site là-bas.org, le site non officiel de là-bas si j'y suis, là-bas.org, où vous pouvez écouter, réécouter cette émission ainsi que beaucoup d'autres numéros de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Olivier Rieutor et Michel Bézikian, Yann Chouquet et Koyen Nguyen ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry et Christophe Imbert attend impatiemment vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37 et puis n'oubliez pas le principe des RG de là-bas si j'y suis, les renseignements généreux, c'est-à-dire des messages précis, sourcés, bien informés. Ça marche, on en reçoit de plus en plus, vous les entendez au cours de ces séquences de répondeurs de là-bas si j'y suis, mais il existe un site qui s'appelle les renseignements généreux, j'ai découvert ça sur le net et c'est très très bien fait parce qu'ils essayent de synthétiser des connaissances dans tous les sens et c'est très bien, ça a une volonté pédagogique tout à fait louable. Réclame.